أدنير مبروك العيد من لافونس ونستوترا أيتما تنضغيك تعيشن دي غريبا مبروك العيد سندغن كو لا فيت كومونس.
شرفيك مطريق دريك مقيمك دولي هنر مفزاك ديكسيك تطفو بكيني فيك يتوخ يسميك بتشيان مزوغ الجيهان فلك النور سي سميك الشيخة سيد فلاك سي سميك الزيك ملك العزيز سمسعيك السفر شرف الزيني حقيق ويقيد رأي يوقك ليكي يوقك ليكي عنده
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui commence avec Michel qui a la voix toute cassée. Et donc, dans le studio, il y a Jean-Mathias et on a un invité qu'on avait déjà invité déjà d'ailleurs, c'est un poly-invité, c'est Quentin de Luermoz, donc qui est professeur d'histoire ou maître de conférence à, je sais plus,
professeur d'histoire
à Paris.
À Paris 1.
Université de Paris.
D'accord. Et là, vous venez d'entendre un morceau donc, d'Azerzour qui a été trouvé par José. C'est ça, José ?
C'est ça.
Et donc, c'était une chanson écrite en 1971 à l'occasion du centenaire de l'insurrection kabyle. Et c'est pour présenter donc, le bouquin de Quentin, qui est consacré à la commune, mais pas forcément à la commune, uniquement à la commune de Paris. Parce que, en fait, y a, dans l'histoire du monde, ou dans l'histoire récente du 19e siècle, il y a beaucoup d'années où en fait, on a des espèces d'événements mondiaux, peut-être. Que ce soit 1848, que ce soit 1968, et puis 1971. Et donc, ce soir, c'est Jean-Mathias qui va poser des questions donc, à Quentin sur son livre Commune, 1870-1971, une traversée des mondes au 19e siècle, donc publié au Seuil cette année.
Ouais, donc du coup, déjà, Quentin, on est super content de t'accueillir ce soir. Comme disait Michel, en fait, ça doit faire, si j'ai bien compté, ça fait au moins la troisième fois que tu viens nous parler à l'émission. Donc, on peut quasiment dire que tu es un habitué maintenant.
Poly-invité, c'est bien.
Poly-invité.
Il a son rond de serviette parce qu'on mange après.
Voilà, donc en fait, bon, en tout cas, on est très, très, très content de t'avoir ce soir. Pour présenter donc ce livre-là qui est sorti déjà il y a quelques mois, hein, puisqu'il est. Il est sorti il y a même presque plus d'un an, si je me trompe pas. Donc c'est Commune, alors Commune avec un petit S entre parenthèses là, et donc une traversée des mondes au 19e, parce que dans ce livre-là, alors c'est ce qui fait entre autres choses son originalité et son intérêt, tu as en fait essayé de travailler sur cet événement t'intéresse depuis très longtemps, hein, c'est parce que ça fait longtemps que tu es sur le dossier Commune. Et cette fois-ci, en fait, tu as choisi de changer un petit peu le type d'échelle spatiale qui te permettrait du coup de comprendre l'événement. Et tu proposes notamment dans ce livre-là ce qu'on appelle maintenant une approche globale de l'événement, c'est-à-dire d'essayer de remettre en perspective ce moment de la Commune en relation avec tout un tas d'événements un peu partout dans le monde. Au même moment, et surtout pour essayer de mesurer à la fois les racines, mais surtout l'écho et le sens de cet événement-là à l'échelle, à l'échelle monde, non pas pris comme une espèce de tout comme ça où tout serait dans tout, mais c'est surtout une manière, comme tu dis, de sortir, d'apporter quelque chose de nouveau. Schématiquement, ce que tu dis, c'est que la manière de comprendre la commune, jusqu'à présent, les deux grandes manières de comprendre la commune, c'était une vision internationaliste qui est inspirée par Marx, en gros, où effectivement on prend la commune comme une espèce d'événement fondateur, des révolutions à venir derrière. Hein. Et puis, l'autre manière de penser l'événement, c'était plutôt une vision plutôt nationale, où on intégrait la commune dans l'histoire républicaine, avec de manière un peu paradoxale, c'était à la fois la fin de la révolution et en même temps le truc fondateur et un peu tragique de la plus longue période républicaine française. Et ce que tu proposes, toi, de faire, c'est d'essayer en fait de sortir de ce cadre-là. Donc, c'est pas une vision internationaliste comme celle proposée par le marxisme, par exemple, ni une vision républicaine nationale. Ce que tu essayes de faire, c'est de montrer comment cet événement, il a des résonances et il a des échos. Et en fait, il ne se comprend aussi que si on décentre finalement le point de vue et si on l'appréhende d'ailleurs, hein, de d'autres endroits, et notamment, et ça j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, mais tu vas nous en parler plus en détail, notamment des différents confins de l'empire. De l'empire colonial français, qui est en fait une réalité massive. Alors là, je trouve que c'est vraiment un des apports de ton bouquin, c'est de montrer ça, de montrer à quel point, effectivement, on a tendance à oublier que la France est effectivement une nation, une république, avec un territoire, mais c'est avant tout, en fait, un territoire métropolitain, c'est-à-dire le centre d'un empire, même peut-être d'empire au pluriel, on pourrait dire, hein, parce qu'il y a plusieurs, il y a l'empire, donc il y a l'empire plutôt européen, le premier, ensuite l'empire de Bonaparte qui lui effectivement s'étend un peu partout dans le monde, et puis il va y avoir l'empire colonial de la République elle-même, et tout ça fait comme ça des couches avec voilà des échos, des lieux où cet événement commun, comme tu l'appelles parfois, va prendre des significations différentes, et c'est un peu du coup une des originalités, c'est pas la seule hein, de ton livre, mais c'est vraiment central dans ce projet là alors peut-être que tu peux nous dire deux mots sur la manière dont tu as envie, t'es venu cette envie peut-être de traiter l'événement comme ça, et du coup ce que ça impliquait aussi en termes de méthode, parce que là tu mobilises des ressources et des archives qui sont assez impressionnantes et qui sont effectivement extrêmement diverses, hein, et pas du tout franco-centrées. Hein.
Ouais. Oui, bah merci. Merci beaucoup. La question est extrêmement, extrêmement juste. Alors, c'est vrai qu'il y avait ces deux. Le problème de la commune. C'est que c'est un événement qui fascine toujours, mais sur lequel il y a quand même 150 ans de travaux intensifs. La seule liste des titres des travaux portant sur la commune vous donne un ouvrage de plus de 600 pages.
Ah, il y a de l'enjeu.
Il y a de l'enjeu, il y a 5000 entrées avec des textes en français, anglais, allemand, russe, polonais, hongrois, roumain. Bon, donc du coup, c'est quand même un territoire sur lequel on rentre avec une certaine prudence. Et puis c'est un objet phare de l'historiographie, mais aussi de la sociologie, mais aussi de la philosophie, puisque Marx, évidemment, a laissé une empreinte très forte, mais Castoriadis y accorde aussi une grande importance. C'est aussi un lieu... Donc c'est quand même un espèce de monument intellectuel auquel on s'attaque avec une certaine humilité, pour commencer. Et alors, en fait, il y a un double déplacement dans le livre, qui est rendu possible aussi par tous ces travaux, hein. Donc t'as bien dit ces deux, en fait il y en a trois, il y a l'approche marxiste qui installe la commune entre crépuscule et aube, et qui avait cette lecture très diffusionniste au fond, c'est-à-dire que la France est un peu le centre, et les autres pays s'approprient la commune, et ça les aide en quelque sorte à passer d'un âge des révoltes jugées romantiques à un âge des révoltes jugées scientifiques. Donc c'est une approche qui est
plus...
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une approche qui est difficile à défendre aujourd'hui. Ensuite, l'autre, même si ça a eu beaucoup de... Ça a eu énormément d'apports grâce à ce cadre-là, l'autre approche, c'est plutôt l'approche anarchiste, qui s'est plus intéressée à la question de la révolte urbaine, c'est-à-dire une ville qui se révolte à un moment de développement du capitalisme industriel. Ça, c'est plutôt Henri Lefebvre, et puis ça a été repris par David Harvey. Et la troisième, c'est la lecture nationale républicaine, comme tu dis justement, hein, qui a l'effet inverse, c'est-à-dire que la commune est un non-événement en ce cadre-là. C'est un tout petit truc, le seul truc important, c'est que la Troisième République s'installe. Et donc souvent, on prend comme un apax. Furet fait arrêter le siècle des révolutions en 1879, donc vraiment la commune n'est rien là-dedans. Et puis, au moment où j'avais commencé à travailler sur le sujet, on était dans un moment... un peu de refroidissement de la discussion sur la commune. Ça s'est réchauffé depuis, c'est vrai que j'ai quand même un sujet qui s'est réchauffé sous mes yeux pendant que je travaillais dessus. Et le discours qui commence à émerger, y compris chez ceux qui étaient plutôt favorables à l'événement, en tout cas qui l'aimaient bien, c'était peut-être qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Pourquoi ? Parce que c'est le truc classique, hein, l'événement dure 72 jours.
Oui, c'est ce que tu rappelles, c'est voilà. Très concentré dans le temps.
C'est très concentré, il y a des mesures très importantes qui sont prises mais qui n'ont pas le temps d'être appliquées. Donc du coup, souvent, l'argument c'est ça, c'est au fond, c'est une révolution qui est très verbeuse, il y a un décalage entre les promesses et ce qui a été réellement accompli. Alors du coup, face à ça, moi j'ai fait un double déplacement, mais qui correspond aux questions qui m'intéressaient en histoire. C'est-à-dire que j'ai utilisé la commune comme test pour les manières de faire qui m'intéressaient en histoire, et la commune m'a poussé en réalité à aller beaucoup plus loin que là où j'étais allé jusqu'à présent. Donc les deux angles, c'est le premier que j'aime beaucoup, c'est l'approche au ras du sol, c'est-à-dire à l'échelle des acteurs. Il manquait en fait sur la commune un travail qui simplement se demande ce qui s'est passé dans la rue. Si on compte que les mesures, évidemment, ils ont l'impression que c'est pas passé grand-chose. Si on descend à l'échelle des quartiers, c'est déjà un autre paysage.
Ça, c'est déjà quelque chose qui t'avait intéressé, hein, puisque tu avais déjà travaillé sur notamment tout le monde d'usurpation de postes au monde de la commune. Hein. Tu avais travaillé aussi sur la police, mais ça de manière plus générale. Et sur le moment commune, c'est des questions qui t'intéressent depuis longtemps.
Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ça permet de voir ce qui s'est passé à l'échelle des quartiers. Donc là, on voit qu'on a plutôt affaire quand même un début de transformation des rapports sociaux assez importante, mais on pourra y revenir. Et le deuxième, c'était cet angle, effectivement. Alors, global, il y a trois niveaux. Hein. C'est impérial, c'est la France plus ses colonies, les effets retour. Transnational, c'est les circulations à plus ou moins grande échelle. Et global, c'est les jeux d'interdépendance transcontinentaux. Donc, en fait, ça désigne à chaque fois des formes de résonance, mais c'est pas toujours les mêmes méthodologies. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça répond un peu aussi à la question sur les sources. Chaque niveau d'enquête commande un certain type de source et un certain type de méthode. Donc, pour en revenir à la question de l'Empire que tu évoquais, c'est vrai que ça, c'était un peu une des surprises et pas une surprise. C'est assez étonnant qu'on continue de faire l'histoire de France sans jamais intégrer les empires.
Absolument. Et là, je trouve qu'à la lecture de ton bouquin, ça saute aux yeux, en fait. C'est-à-dire que l'intérêt de penser, effectivement, un événement, y compris en pleine capitale, à l'échelle de l'Empire, alors, ça change tout.
Bah, tout à fait.
Ça change absolument tout.
Bah, pour deux raisons. D'une part, c'est que Paris est quand même la capitale de la seconde puissance coloniale et économique mondiale. Donc cette capitale en situation de révolution, ça a des réverbérations de fait, ne serait-ce qu'économiques. En Argentine, les milieux commerçants s'inquiètent énormément de la fermeture de la bourse parisienne. Donc il y a des effets de pression qui jouent.
Tu dis ça, tu rappelles un chiffre qui est quand même spectaculaire. Tu dis qu'en 70, en fait, 90% des investissements à l'étranger sont entre les mains de la France ou de l'Angleterre.
C'est ça. 90% sont partagés entre la France et l'Angleterre. En 1860, la valeur des exportations françaises atteint celle de la Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment c'est les deux principales puissances. Donc ça c'est un premier point. Et puis le deuxième, effectivement, cette dimension impériale, c'est-à-dire que les colonies françaises ont elles-mêmes une histoire révolutionnaire. En tout cas, c'est très net pour la Martinique. Donc en Martinique, il y a un mouvement qui n'est pas tellement lié à la commune, mais plutôt 4 septembre 1870, qui est un mouvement républicain, qui retrouve en fait la généalogie de 1848, de 1804, la première république noire haïtienne. Donc on voit émerger en fait au monde de la commune d'autres histoires, d'autres généalogies, de façon quasiment synchronique. Le cas de la Martinique est intéressant parce que c'est deux histoires un peu parallèles. Mais on a affaire vraiment à une république sociale des anciens colonisés qui sont extrêmement déçus contre l'ordre social, politique et racial qui s'est mis en place après 1848. La vraie surprise, c'est l'Algérie, en fait.
Oui, c'est ce que tu dis. Alors là, pour le coup, c'est des pages absolument passionnantes parce que simultanément, ce que tu rappelles, c'est que effectivement, tu as une commune à Alger et qui se déroule exactement au même moment qu'une une révolte qui, pour le coup, est plus connue, même si, alors bon, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Algérie, mais qui est la révolte de la Kabylie, en fait, et qui, elle, se fait contre, effectivement, l'occupation française, ce qui n'est pas du tout le cas de la commune d'Alger.
C'est ça. Ça, c'était la grosse surprise. Et finalement, ça a pris de plus en plus... Au début, c'était juste une enquête en passant, et ça a pris de plus en plus de place.
Ça, c'est fascinant, parce tu as une espèce de télescopage, c'est-à-dire que tu as cette espèce d'écho à Alger, une commune très républicaine, comme tu le dis, et que tu précises bien, mais qui est complètement aveugle à ce qui est en train de se passer à quelques dizaines de kilomètres en Kabylie, où là, il y a une révolte anti-coloniale, pourrait-on dire. Et en fait, les deux ne connectent absolument pas.
Absolument pas. Ou elles connectent en négatif.
En négatif, exactement.
À Alger, comme dans beaucoup de villes françaises, une commune se déclare dès septembre 1870, donc avant Paris. Mais quand Paris se lance en mars 1871... Très vite, la commune d'Alger va déclarer son adhésion à la commune de Paris. Donc on a un lien, on a une connexion directe. Il y a même une des figures de la commune d'Alger qui s'appelle Alexandre Lambert, qui est un ancien rédacteur du journal de Georges Sand, donc ça fait des connexions assez incroyables, qui se trouve sur Paris à ce moment-là, qui va devenir délégué de l'Algérie, et puis après il va occuper un bureau à la presse, dans la presse. Donc il y a cette première connexion. Et la commune d'Alger, elle est très républicaine, elle mobilise un imaginaire de la Révolution française assez puissant, mais elle est républicaine dans la version algérienne, c'est-à-dire que en 1860, les républicains ils sont contre le Second Empire, ils sont contre la politique de ce qu'on appelait le Royaume arabe, c'est une politique qui se voulait plus respectueuse des populations, bon, ce qu'elle n'était pas en réalité, mais c'était moins irrespectueux que les politiques d'avant. Et donc, du coup, les républicains en Algérie, ils sont colonistes, en fait. Ils sont pour une extension de l'occupation du territoire. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la guerre de 1870 débute, les populations algériennes, qui sont déjà affaiblies par toute une série de catastrophes, voient que les troupes passent, disparaissent. Donc, elles commencent à lancer une insurrection. Et quand elles voient que l'insurrection d'Algérie démarre, et ben ils comprennent très vite le message. Hein. Dans les messages qui s'envoient entre eux pour appeler à la mobilisation, le grand mot d'ordre, c'est « le civil va arriver ». C'est-à-dire, en gros, c'est la fin des territoires civils et militaires. La République va s'installer, et avec la République, la logique est d'assimilation. Donc, ce qui est vraiment... Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que dans les derniers travaux qu'on avait récemment, on associait la Commune et la révolte kabyle comme si c'était un même élan d'émancipation. Ça fait plaisir, en fait. Mais en fait, non. Malheureusement, et puis c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que l'insurrection kabyle se lance contre l'occupant français, ce qui est tout à fait logique.
Dont fait partie la Commune d'Alger.
Et dont fait partie la Commune d'Alger.
Qui d'ailleurs l'assume parfaitement.
Et qui l'assume parfaitement. Ouais. Donc du coup, ça fait réfléchir un peu plus. Et quand on prend ensemble la Martinique et l'Algérie, ça fait réfléchir à ce qu'est l'universalisme républicain au 19e siècle.
Tout à fait. Tu parles de plasticité, l'universalisme républicain. Tu dis qu'effectivement, ça se décline de différentes manières. Et c'est vrai que c'est fascinant, parce que quand tu dis en Martinique, il y a une histoire révolutionnaire en Martinique, mais c'est une culture, effectivement, voilà, d'outre-mer, pourrait-on dire, qui n'est pas celle, effectivement, de la métropole, qui n'est pas non plus celle exactement que tu viens de raconter, hein, des colons algériens. Et donc, tu as cette espèce de jeu d'écho, là, et de transformation. En même temps, il y a la distance qui est assez, assez fascinant. Et alors, ça n'enlève rien, parce que tu le rappelles aussi, au caractère, pour le coup, cosmopolite de l'universalisme de la Commune. Hein. La Commune, c'est penser en République universelle. Et tu as rappelé des choses qui sont connues, mais en redonnant le contexte, que je trouve aussi très, très précieux, y compris dans les troupes mobilisées avec la chute de Napoléon III, l'importance de Garibaldi, hein, que tu rappelles, des volontaires italiens, mais aussi espagnols, des Belges, des Polonais. Hein, également, aussi des colons qui viennent un peu de Méditerranée, d'Algérie, hein, d'après ce que tu dis, et qui viennent en fait se mobiliser pour défendre la République. Alors, c'est pas encore forcément la Commune, ils vont se retrouver pour certains pris effectivement dans l'histoire de la Commune, mais il y a aussi cette dimension cosmopolitique là. Hein. Donc, c'est vrai que c'est passionnant, parce que tu vois que ça se joue à plein de niveaux qui ne connectent pas forcément,
c'est ça,
et qui font pas forcément voilà une belle théorie ou un beau mouvement historique comme les philosophes de l'histoire adorent les.
C'est vrai.
Dans les voir, et là on voit qu'effectivement ça se passe de manière...
C'est l'intérêt de ces approches, en fait, c'est que donc sur ces universalismes, en gros, on a un universalisme républicain des anciens colonisés, donc un vrai universalisme, et l'universalisme des colons en Algérie, donc ça c'est en Martinique, et en Algérie on a un universalisme des colons qui se fait contre les colonisés, donc c'est là où on est obligé de réfléchir un petit peu, et la Commune est un peu au milieu de tout ça, elle regarde pas trop en fait en réalité, donc c'est toujours comme souvent en histoire, hein, c'est à nous de réfléchir, l'histoire réfléchit pas à votre place, elle vous amène les questions et ça va un peu contre les grandes théorisations de l'histoire. Alors, ce que tu disais sur les différents niveaux, c'est ça qui est intéressant en fait quand on fait ces approches multiscalaires, c'est qu'on n'a pas un monde avec une seule chose dans le monde, c'est que dans cette échelle qu'on appelle monde, il y a les connexions impériales, les connexions transnationales qui sont ces volontaires internationaux qui viennent, il y a des effets globaux littéralement, ça c'est plutôt la médiatisation, et ils croisent pas entre eux.
On va en parler après aussi.
C'est surtout ça qui est important de voir, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le monde en fait, c'est d'autres formes de rapports de force, de rapports sociaux, qui n'ont pas vocation à être homogènes, au contraire. Et tout ça, ça explique la commotion en fait que la Commune arrive à avoir au-delà simplement des frontières parisiennes.
Alors tu fais aussi tout un travail, on va en parler peut-être après là, mais juste je le dis parce que ça va effectivement dans le sens de ce que tu viens d'expliquer. Tu as tout un travail aussi sur l'écho médiatique, pour le coup international, de l'événement. Alors tu as fait un recensement assez impressionnant, voilà, du nombre de dépêches dédiées à l'événement. Alors la chute de l'Empire, puis les premières déclarations de la République, les premières déclarations de la Commune, la manière dont les choses vont évoluer petit à petit. Donc c'est un écho qui est réellement effectivement pour le coup international. Donc tu as les dépêches aux États-Unis, en Angleterre, jusqu'à l'Extrême-Orient, voilà. Donc les confins de l'Empire, mais aussi au-delà, hein, effectivement. Et on voit, du coup, se construire et se diffuser presque, voilà, de manière épidémiologique, je dirais, hein, cette espèce d'événement-là. Et aussi les différentes interprétations qui évoluent aussi en temps réel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des points de bascule, il y a des, voilà, les soutiens se font plus rares, voilà, le rapport au massacre, le rapport à l'Église, voilà, il y a des points de non-retour. Mais du coup, effectivement, ça donne une dimension à l'événement et une approche que, bah, qui est vraiment passionnante, quoi. C'est-à-dire que.
Ouais, mais ça, c'était la grosse surprise de l'enquête, en fait, hein. Alors, rétrospectivement,
c'est logique. L'Amérique du Sud aussi, par exemple.
Alors, c'est un des plus gros lieux de réception. Oui. C'est qu'en fait, juste avant la commune, il y a eu toute une série de transformations. Il y a un câble qui traverse l'Atlantique à partir de 1866, qui fait que l'information arrive en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. On a les premières agences de presse, Reuters, qui existe encore aujourd'hui, Havas, Wolf. Et c'est fait que, donc, tu l'as dit, moi, en fait, j'ai compté le nombre de mots consacrés à la commune sur l'ensemble du nombre de mots disponibles. La première semaine de l'événement, donc le 18 mars, au moment de la semaine sanglante et pendant la guerre de 1870. C'est vrai que les chiffres sont... Donc sur le réseau Reuters, c'est-à-dire le réseau anglais, qui a priori devrait être un peu plus éloigné de la question. Le 18 mars, c'est 80% des mots qui sont consacrés à la commune la première semaine. C'est-à-dire que c'est l'événement dont on parle le plus sur l'ensemble du réseau Reuters. Sur le réseau Reuters, ça couvre l'Australie, l'Inde...
C'est la finale du mondial.
Ouais, c'est donc du coup, c'est probablement un des événements les plus médiatisés au monde à ce moment-là. Ouais. Et ce qui est la vraie surprise, c'est qu'on aurait plutôt tendance à penser que c'est au moment de la semaine sanglante. Mmh. Le massacre, l'apocalypse... En fait, non, c'est la dynamique révolutionnaire dans Paris qui provoque cette onde de choc. Pourquoi ? Parce que Paris, c'est la capitale des révolutions. Toute la presse un peu modérée pensait que c'était fini. Et là, d'un seul coup, ça redémarre. Donc, ça provoque une fascination incroyable dans un espace qui a déjà été marqué, en réalité, par l'imaginaire de la Révolution française. Donc, ça fait cette espèce de chambre d'écho hallucinante. Et ce qui était très intéressant à étudier, c'est vrai que c'était long, c'est que chaque territoire réinterprète l'événement à sa façon. Et à chaque fois, ça donne lieu à des débats locaux très importants. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une réception homogène. Donc, deux qui marchent bien. Le premier, c'est aux États-Unis. C'est assez intéressant parce que les États-Unis sortent de leur propre guerre civile. Ils sont assez contents qu'il y ait une guerre civile en France. Et la commune permet de continuer la réflexion, en fait, sur quel est le type d'État qui doit avoir lieu. Et les républicains du Nord utilisent la commune pour déconsidérer les démocrates du Sud. Donc, le Sud raciste américain.
Qui avait été soutenu par Napoléon III. Par
exactement. Et donc, du coup, l'argument, c'est de dire ils sont contre un État central, donc ils sont pour l'autonomie, donc c'est des communards, et on appelle la commune le French Ku Klux Klan. Ce qui est quand même assez incroyable.
Ah oui, t'as une espèce de retournement.
Les idéologies sont complètement absolument opposées. French Ku Klux Klan.
Ah oui, ça c'est...
Alors, il faut vraiment être dans le contexte des années 1865 américains pour comprendre comment c'est possible. Quand on lit les articles, en fait, c'est logique. Ouais, c'est qu'ils dénoncent simplement une tentative d'autonomie contre un État central. Et alors évidemment, les démocrates du Sud reprochent aux républicains du Nord d'être aussi des communards, c'est-à-dire des tyrans sanguinaires, enfin, bref.
Jacobins.
Voilà. Et l'autre version, c'est la version latino-américaine qui est intéressante aussi. Il y a une très très forte... Ça a été une des grosses surprises. J'ai fait une revue de presse sur le Mexique. Alors, moi, je n'ai pas l'espagnol, donc c'est ma femme Noémie Gère qui les a lues. Je vous remercie d'ailleurs parce qu'elle y a passé du temps.
On l'embrasse.
Voilà. Mais du coup, c'était assez incroyable de voir cet écho dans la presse modérée, républicaine et socialiste. Donc le volant est plus large, l'écho est plutôt positif. Et on retrouve un même argument. Au fond, l'idée, c'est la commune, c'est super. C'est plein de très bonnes idées. La République fédérale, la lutte contre les propriétaires, la lutte contre l'aristocratie. Mais c'est un peu trop brouillon. Ça, c'est trop français. C'est-à-dire, c'est un peu anarchique, c'est un peu violent. En fait, la commune, c'est fait plutôt pour le sol latino-américain. Pourquoi ? Parce que l'argument qui est développé dans ces pays, c'est qu'il y a deux types de modernité. Il y a la modernité européenne. C'est le développement économique et l'État, donc ça c'est pour la France. Puis il y a la modernité latino-américaine, qui est la République, la fraternité, le fédéralisme. Donc, en fait, ils estiment que la commune s'est trompée de sol, en quelque sorte, et que c'est eux qui devraient être les vrais dépositaires.
D'accord. Ouais.
Et c'est intéressant, parce que ça rappelle quand même qu'en France, on a souvent cette idée que la France est la terre républicaine par excellence, mais au 19e siècle, ils n'ont pas tort, les terres républicaines par excellence,
c'est l'Amérique du Nord,
ces États d'Amérique du Sud.
Qui sont de la Bolivie aussi,
la Bolivie,
extrêmement puissant.
Venezuela, les deux réceptions les plus fortes, c'est Mexique et Colombie.
Et Colombie.
Ouais. Ouais. Moi, je travaille surtout sur le Mexique, mais la Colombie aussi a un très fort accueil. Et c'est vrai que la France est tantôt monarchie, tantôt empire, et assez peu république tout au long du 19e siècle.
Donc on va faire une pause musicale, et on se retrouve après.
Thank you. longtemps, qui ça? Nègre révolté, assoupi ta Sion, réclamé, t'es passé chiou.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui reprend pour cette deuxième partie avec Quentin de Luermoz, historien et auteur d'un ouvrage intitulé Commune, avec une petite parenthèse au pluriel, 1870-1871, une traversée des mondes au 19e siècle, édité au Seuil. Et donc Jean-Mathias et Quentin ont, dans une première partie, évoqué un petit peu le renouvellement méthodologique de l'approche de la commune dans cet ouvrage, et justement qui passait aussi par une prise en compte des échos de la commune dans le monde. Et donc ça nous invite à revoir cet événement d'une manière originale et pas du tout habituelle, donc c'est quand même très très chouette. Et là, vous venez d'entendre un morceau de Lauriane Zachary, Lumina. C'était une chanson hommage à Lumina Sophie de Martinique. Moi, j'ignorais tout, donc Quentin nous a expliqué ça, enfin m'a expliqué ça pendant l'interlude. Donc Lumina Sophie, allez voir, parce que c'est une révolutionnaire qui a été réprimée de façon assez sauvage et bien dégueulasse. Donc Jean-Mathias.
Oui, bah du coup, alors peut-être les deuxièmes questions que j'avais envie de te poser, Quentin. Là, tu nous as parlé dans la première partie de l'émission question de la manière dont tu avais essayé de changer l'échelle spatiale hein, pour essayer de comprendre l'événement et puis ses échos. Ce que tu dis aussi, c'est que du point de vue de la méthode, et ça c'est une question qui t'intéresse aussi depuis longtemps, c'est tu as aussi essayé de multiplier un petit peu les au moins de recenser les différentes approches qui permettaient de peut-être de comprendre ce qu'était une temporalité révolutionnaire. En prenant du coup la commune comme une espèce d'exemple typique de ça. Alors tu t'expliques voilà les différentes approches qui existent actuellement en histoire pour essayer de penser des événements de ce type-là. Donc soit d'insister sur les différentes temporalités, les différentes expériences, les différentes perceptions du temps qui peuvent être simultanées, hein, mais qui effectivement font la complexité d'un événement révolutionnaire de ce type-là. On en a un peu parlé d'ailleurs tout à l'heure à propos d'Alger. Hein, c'est une illustration de ça. T'as les approches qui privilégient au contraire plutôt l'événement dans sa singularité aussi dans son comme processus hein, c'est-à-dire voilà comme les étapes d'une crise, comment se prépare une crise, comment elle éclate, comment elle se dénoue, voilà. T'as aussi ceux qui privilégient plutôt une approche voilà sur discontinue, sur une espèce de voilà de d'irruption d'un imaginaire révolutionnaire, voilà, alors un peu à la manière dont peut parler des gens comme Walter Benjamin par exemple, et au fond c'est en essayant de mobiliser tous ces différents outils que t'essayes voilà de rendre compte aussi de la manière dont les gens ont senti, alors soit avec une intensité qui est complète, qui peut être assez surprenante en fait parfois quand de l'intérieur de l'événement, une espèce d'intensité complètement remarquable en tout cas et qui est passionnante. Et aussi toutes les tentatives qui sont faites, au contraire, pour refroidir par des mots et par une espèce de temps, au contraire, ordinaire, banal, voilà, quotidien, de refroidir l'événement de la part notamment des Versaillais. Et en fait, tu centres ça, voilà, sur un certain nombre de figures, je dirais aussi de personnages qui incarnent un petit peu ça. Alors bon, je vais vite parce qu'en fait, ces pages-là sont extrêmement riches également, donc ça mériterait au moins d'en parler beaucoup plus longuement. Mais tu parles notamment, voilà, d'une des sources sur lesquelles tu as travaillé, là, le journal intime de Martial Senis, qui est au cœur de l'événement. Et puis un peu plus tard, donc du coup pour renouer aussi avec ce que tu disais sur l'écho mondial en fait hein, de cette affaire là tu mentionnes à la fin, alors je cherche son nom là rapidement là, mais cette figure de tailleur de pierre politisé, voilà exactement, qui lui va finir au Mexique hein, et va après avoir voilà participé à la commune et avoir d'ailleurs participé avant à d'autres
luttes. Il est plutôt participé à 48, il fait partie de ceux qui reçoivent la commune, il est déjà au Mexique à ce moment là en
d'accord
fait.
Voilà, mais alors du coup c'est peut-être deux mots sur ces deux personnages là et la manière dont ils peuvent nous permettre de comprendre les différentes justement temporalités, c'est les ça. Différentes manières de percevoir le temps là-dessus. Juste peut-être deux mots là-dessus. J'ai aussi noté parce que j'ai trouvé ça fascinant la manière dont tu l'as mis. Alors je retrouve mes notes rapidement. C'est une dépêche en fait qui est envoyée par Versailles, justement quand je parlais de cette guerre des mots aussi là sur les temps pour essayer d'éteindre l'incendie par des mots et comparer parce que tu le mets. Attends, il faut que je la retrouve. Comparé par une déclaration simultanée de la commune, mais ça permet de prendre ce soir. Mais bon, vas-y, peut-être.
Oui, tu vas trouver parce que c'est exactement ça. Là, en fait, tu as vraiment parfaitement résumé l'esprit de cette deuxième partie. Là, un des enjeux, c'était. Je veux dire que toutes ces différentes approches, en fait, posent une même question, que c'est de l'expérience révolutionnaire. Et que la commune est un des lieux où elle s'exprime particulièrement pour une raison très simple, c'est que, comme elle est littéralement coupée en plein élan. Il n'y a pas tout le débat sur ce qu'elle aurait pu advenir, est-ce qu'on aurait eu un régime merveilleux, au contraire un régime terrible. On voit vraiment cette espèce de moment où ce qui était ordinaire auparavant se transforme de l'intérieur. Donc toutes ces temporalités agissent ensemble, c'est-à-dire que toutes les temporalités antérieures qui interviennent, la crise provoque son propre temps, et puis ce temps créer une nouvelle culture temporelle, ce qui fait que les révolutions antérieures, 1789, 93, 48, etc., se redonnent une nouvelle actualité dans l'événement. Et avec une intensité effectivement très forte. Donc ça, c'est l'approche plus benjaminienne. Mais c'est vrai qu'on voit comment surgissent cette idée que les révolutions précédentes n'ont pas abouti, n'ont pas donné toutes leurs promesses, et qu'il faut s'en réemparer et les rendre enfin disponibles, en tout cas. Et on voit très bien, donc ça c'est les processus de subjectivation, c'est-à-dire que là on le voit le mieux, c'est pas tellement les militants qui sont déjà révolutionnaires de longue date, parce que d'une certaine manière eux ils s'adaptent assez bien à l'événement, c'est ceux qui étaient un peu plus à l'écart et qui vont être saisis par l'événement.
Qui ont été happés, quoi, par cette espèce.
Voilà. Voilà. Et qui vont avoir une expérience qui va les modifier à tout jamais. Alors, le cas de Marcel Senis, il est intéressant parce qu'il est trop beau pour être vrai, en réalité. Et c'est un faux. C'est pour ça que j'ai fini par limiter un petit peu son importance dans le livre. Et alors, comment on trouve les traces de ça? Parce que c'est une vraie question. Et après, je n'avais plus que des micro-traces. Mais j'aurais donné pas mal d'importance parce que pour moi, c'était assez... nécessaire de redonner la parole à ceux qu'on ne voit jamais dans cette histoire de la commune. Il y a toujours les mêmes figures. Mmh. Donc il y a Raoul Rigaud, Jeanne Varlin, Jean-Louise Michel, etc. Puis c'est quand même un mouvement qui engage une ville de plus d'un million d'habitants. Donc tout le monde n'y participe pas, mais c'est quand même un vrai mouvement populaire. On ne voit jamais les autres, en fait. Alors cette subjectivité-là, on la trouve vraiment par intermittence dans les archives, mais il y en a une que j'aime bien, c'est une femme qui s'appelle Jeanne Bigeot, qui est une couturière, qu'on trouve dans les archives, qui se fait arrêter à la fin. Et en gros, le juge lui dit, bah, comme c'est une femme, elle peut pas avoir d'opinion politique. Donc, elle n'a fait que suivre ce qu'il appelle sa nature de femme. Hein, je mets des guillemets, donc faut imaginer les guillemets. Et donc, suivant sa nature de femme, elle n'a fait qu'obéir aux hommes sous l'emprise de l'alcool.
Juste, ça, c'est fascinant. Sur cette question-là, tu dis sur effectivement la commune par le bas, comme tu dis parfois aussi par les personnes. Je signale juste, c'est un bouquin qui est assez extraordinaire, mais c'est le dictionnaire biographique de la commune,
chez Dupin,
où tu as des notices comme ça extrêmement, extrêmement détaillées.
Le métron, ouais.
Voilà, avec des photos, effectivement, parce qu'il y a des photos à l'époque. C'est assez fascinant d'avoir cette galerie de portraits-là.
La commune l'intéresse. Comme là, c'est plein d'archives, on peut émerger. Ouais. Donc cette femme, du coup, quand on regarde un peu dans les archives, elle a quand même participé à des clubs féminins, elle a fabriqué des cartouches. Mmh. On a quand même l'impression que c'est un peu plus pensé que ça.
Elle n'a pas fait que suivre. Quoi.
Voilà. Ouais. Et en fait, on n'avait aucune trace d'elle avant. Donc manifestement, c'est quelqu'un qui, dans l'événement, en fait, s'est engagé, fait écho pour la commune. Puis en creusant encore plus, je me suis aperçu que dans sa jeunesse, elle s'était déjà fait arrêter pour injure au curé dans son village d'origine. Donc ça veut dire qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui avait déjà un background républicain assez important, mais qui a été réveillé et poussé encore plus loin au moment de la commune. Donc c'est ces espèces d'étincelles, en fait, qui sont essentielles. Parce qu'il n'y a que elles qui permettent de comprendre les phénomènes de flux et de reflux de l'adhésion en période de révolution. Donc ça, c'est le rapport au temps. Et alors, ce que tu disais très justement, c'est que ce qui va faciliter ces flux et ces reflux, c'est ce conflit sur le type de temps dans lequel on vit. Donc les plus engagés vont constamment aller dans le sens donc du temps révolutionnaire, de l'ouverture des possibles. Et ça va tellement loin que au moment où les Versaillais pénètrent dans Paris, les communards chantent la canaille. Donc ça amuse beaucoup, mais en fait c'est typique de ce rapport au temps révolutionnaire qui crée un espace des possibles qui est inimaginable de l'extérieur. Mais sinon il n'y a pas d'engagement dans un tel événement. Et à l'inverse, il y a tous ceux qui refusent absolument ce temps-là et qui, au lieu de parler de révolution, vont parler d'émeutes, qui, au lieu de dire « tiens, le monde va changer », disent « ça ne dure que quelques jours », qui compte le temps et l'espace en secondes et en mètres. C'est ça le...
C'était peut-être juste, c'est ça, c'est page 202, là, voilà, donc j'ai retrouvé. Donc, dépêche de Versailles, le 11 avril 1871, 10h30 du matin, donc style très laconique, rien de nouveau. Le plus grand calme règne dans nos cantonnements, l'armée s'organise et augmente chaque jour davantage, que les bons citoyens, sincères dans leurs alarmes, se rassurent, il ne surviendra pas un seul événement sans qu'on le leur fasse connaître, et il n'y en a aucun de funeste à prévoir ou à craindre. Alors ça c'est la dépêche de Versailles, à destination évidemment des Parisiens intramuros, et au même moment, la déclaration de la commune, c'est « le peuple qui détrône les rois, qui détruit les Bastilles, le peuple de 89 et de 93, le peuple de la Révolution, ne peut perdre en un jour le fruit de l'émancipation du 18 mars parisien. La lutte engagée ne saurait être désertée par personne, car c'est la lutte de l'avenir contre le passé, de la liberté contre le despotisme, de la solidarité des peuples contre l'égoïsme des oppresseurs. » Et le 15 mai, tu dis, voilà, dans un appel aux villes républicaines, Pascal Roussetonne, Paris a fait un pacte avec la mort, grande ville de France, assisterez-vous immobile et impassible à ce duel à mort de l'avenir contre le passé, de la République contre la monarchie. Donc on voit bien cette espèce de guerre des mots et de guerre des temps,
Et c'est une guerre des temps qui est aussi interne, parce qu'il y a encore des bourgeois en fait qui sont restés dans la capitale, et qui eux, alors c'est intéressant parce qu'ils écrivent des lettres, ils sont horrifiés en fait par ce qu'ils voient, et ils vont opposer à ce temps révolutionnaire qui est aussi un temps où le temps du repos et le temps de l'action se brouillent, où le temps du travail du politique évidemment se brouille. C'est vraiment un temps qui qui met à bas ce que Jacques Rancière appelle le partage du sensible, c'est-à-dire que l'idée qu'au fond on crée des domaines séparés dans l'espace social. Bon bah le moment révolutionnaire, c'est le moment où ces domaines se rejoignent. Alors que fait l'un de ces bourgeois? En fait, il se retire littéralement, donc il lit avec auprès de sa cheminée, et il se force à aller au travail alors qu'il n'y a plus d'activité et à mimer une activité. Mais pour lui, c'est un acte de résistance en fait interne.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il crée et il continue même à penser à son épargne alors même qu'il est dans un moment de chaos absolu. Et alors, ça fait rire, mais en même temps,
c'est gymnastique du banal.
Exactement. Hein, c'est typiquement, voilà, c'est une arme de combat pour refroidir aussi le temps révolutionnaire qu'il observe autour de lui, qui est en train de bousculer son propre ordinaire. Donc ça, c'est intéressant, ces approches par le bas, c'est que ça redonne du sens à des espèces d'événements qui n'ont l'air sans aucun intérêt pour l'historien qui cherche la grande révolution. Et alors qu'en fait, c'est quand même avec ces dynamiques-là. Que se font les choses à l'échelle des quartiers.
Les contagions et puis les immunisations.
C'est
contre
ça.
L'autre
point auquel on fait très peu attention, c'est souvent on dit, bon voilà, la commune n'a pas eu une grande œuvre sociale. En fait, le maître mot de la commune, c'est comme une vraie révolution des travailleurs et du travail. Le maître mot, c'est l'organisation du travail. Mais ça prend des formes qui ne sont pas spectaculaires, mais qui sont extrêmement importantes en réalité pour les personnes concernées. Une des mesures qu'on trouve le plus souvent, c'est la fin du marchandage. Ça ne dit rien à personne. Et le marchandage, c'était un système dans lequel un preneur d'ouvrage mettait en compétition deux équipes d'ouvriers pour faire tirer les prix par le bas. Donc quand vous mettez un terme au marchandage et qu'à la place vous mettez des bureaux de placement qu'on va dire démocratiques, c'est-à-dire où les ouvriers décident eux-mêmes le placement le plus juste, bah en fait c'est quand même une transformation très forte.
Le marché du travail, bah oui.
C'est voilà. Et à l'échelle des administrations, autre chose, alors qui fait sourire aujourd'hui, parce que on est vraiment dans une dynamique inverse, mais dans certaines administrations, la première chose que font les communards qui arrivent dans ces espaces-là, c'est qu'ils augmentent le salaire les plus bas, ils diminuent leur propre salaire, ils diminuent la journée de travail. Donc voilà, ça c'est une gestion communarde de l'administration. Donc évidemment, on est loin de ce qu'espéraient les historiens marxistes, hein, qui voulaient surtout voir une avant-garde à l'œuvre avec une idéologie. C'est la grande reproche des marxistes à la commune. C'est-à-dire, au fond, son idéologie n'était pas assez structurée. En fait, c'est pas vraiment ça. Il y a plusieurs socialismes et républicanistes qui existent au 19e siècle. C'est assez structuré, simplement. Ça se situe à des niveaux qui supposent un changement de focale pour être correctement observé.
C'est ça. Et tu dis, alors, tu as aussi d'autres développements là-dessus. Alors, j'y pensais, et je voulais juste avoir ta réaction là-dessus, parce qu'on a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur un autre épisode révolutionnaire, celui de Barcelone, après le coup d'État de Franco. Et il y a des pages, effectivement, dans ce livre qu'on a commenté il n'y a pas longtemps, là, sur la partie, le moment anticlérical et iconoclaste, hein, qu'on observe à Barcelone, effectivement, donc l'exécution des statues du Christ, voilà, transformation de confessionnaux en kiosques à journaux, sur la rue. Alors, il y a aussi cette dimension-là, la commune, c'est une dimension anticléricale très forte, qui est à la fois républicaine et socialiste, pour le coup, hein, et populaire, pour le coup, profondément populaire. Et alors, tu dis, tu t'en dis quelques mots là-dessus, en disant que, bon, c'est à la fois spectaculaire, et en même temps, on sent que t'es pas trop enclin, toi, à aller de ce côté-là, sur le fait qu'il y aurait une espèce de sacré révolutionnaire, hein, qui remplacerait le sacré religieux. Tu dis, en fait, on est surtout dans un gros mouvement, une grosse demande, un gros mouvement de sécularisation, en fait, de l'espace public. Donc en fait, c'est à la fois spectaculaire et en même temps c'est relativement modéré dans les motifs. Enfin, c'est en tout cas ce que et ça fait partie effectivement aussi de la manière dont les gens vivent le changement et l'intensité de ce changement là. Donc là, sur le coup, par rapport à l'Église, tu serais plutôt toi
disons que le c'est un cas qui a fait couler énormément d'encre. Les communards, en fait, ont plusieurs façons de gérer la question des églises. Déjà, ils installent des clubs dans les églises.
Ouais.
Alors pourquoi ? Parce qu'une église, c'est une parole divine qui va du haut vers le bas, vers des fidèles. Les communards, eux, ils veulent mettre en place une parole démocratique et populaire, horizontale. Donc, installer un club dans une église, ça a vraiment du sens. Et quand on regarde les pratiques d'iconoclaste, alors il y en a quand même pas mal, hein, qui sont détruites. Et on retrouve les formes classiques de l'iconoclaste, c'est-à-dire que tout n'est pas détruit. On sélectionne et on retrouve un peu la grammaire de ce qu'on pouvait trouver même au moment des guerres de religion, c'est-à-dire qu'on va couper la tête du Christ parce que c'est là que siège l'âme. Enfin bon, donc c'est tout sauf des actes de pure barbarie ou de vandalisme, mais comme on le présente souvent, il y a une grammaire en fait de destruction
c'est
des idoles,
ce que tu montres, c'est qu'en fait,
qui est assez bien réglée quoi.
Et c'est qu'effectivement là où Versailles ou le Lord Bourgeois cherche effectivement à voir de la barbarie, en fait il faut faire très très attention avant de considérer un acte comme étant insignifiant, parce qu'effectivement tu dis, y compris sur des temps très très longs, je renvoie voilà, aux révoltes communales du Moyen-Âge, du XIIIe, etc. Alors, pas forcément sur la question du rapport à l'Église, mais effectivement, tu dis que dans l'histoire, effectivement, il y a comme ça ces espèces de c'est ce qu'on appelle les temporalités en histoire, ouais, hein, si on comprend bien. C'est-à-dire, voilà, ces espèces de stocks de significations ou de gestes qui vont prendre leur sens. Suffit d'aller chercher suffisamment loin pour effectivement trouver une mémoire à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais qui du coup vient donner du sens à ce qui se passe. Quoi.
C'est Emmanuel Furex qui a sorti un livre là, qui s'appelle L'œil blessé, qui analyse ça vraiment bien, ces formes d'iconoclasme. Alors pour finir sur la question des églises, donc du coup, on a bien une sécularisation très forte. Hein. L'idée, c'est qu'il faut évincer Dieu de l'espace public pour que la République de Paris puisse s'installer. Mais quand même, à la fin de l'épisode, même La Semaine religieuse, qui est un journal ecclésiastique, se félicite plutôt du faible nombre de destructions plutôt que de détruire souvent en voile. Donc on est quand même dans un registre d'iconoclaste qui n'est pas aussi radical que ce qu'on pouvait avoir par exemple pendant la grande phase de déchristianisation de la Révolution française. C'est un peu ça l'idée qui est derrière cette, non pas prudence, mais il y a une forme de retenue aussi. Hein, on dépeint souvent la Commune comme un moment d'extrême violence. Il y a une forme de retenue républicaine dans les actes qui contraste avec la violence des mots. Et pour les acteurs, c'est une forme de maturité
c'est moins
révolutionnaire.
Finalement, t'as moins de religion civile qu'au moment de 89.
Ah oui, ils n'essayent pas de remplacer un culte par un autre.
Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on va peut-être faire une deuxième pause musicale avant d'aborder la dernière partie.
ربي ما يخليني يا دخل في ست بيبان او السبعة في هالجدعان
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, consacrée à un ouvrage de Quentin de Luermoz, Commune 1870-1871, une traversée des mondes au 19e siècle, édité au Seuil. Et donc il y a Quentin ici pour nous en parler. Et je vais pas faire une présentation trop longue parce qu'il nous reste peu de temps. Et donc Jean-Mathias, envoie. Ah oui, le morceau quand même important, vas-y.
Ouais. Donc on vient d'écouter, ouais, c'est Akli Yayaten, Yael Memphis. C'est en fait une chanson qui est assez connue parce que Rachita en a donné plusieurs versions assez faciles d'accès. Et en fait c'est une chanson qui parle des déportés algériens en Nouvelle-Calédonie, alors suite justement aux révoltes kabyles de 1871 et à cette espèce de rendez-vous manqué, mais pour des raisons historiques pour le coup, entre la révolte kabyle et puis la commune d'Alger. Alors pour cette dernière partie, bon, c'est un petit peu frustrant parce qu'on fait ça un peu à toute vitesse là, alors que le livre est vraiment d'une richesse assez exceptionnelle. Ben, alors peut-être bon, au choix, voilà. On te pose deux questions au choix. Si tu peux répondre aux deux, c'est très bien, mais sinon tu... Voilà. Y a alors toute la dernière partie du livre qui est consacrée plutôt au retour à l'ordre, en fait, d'une certaine manière. La manière dont c'était... Toutes les manières dont on va... dont la République va essayer de digérer l'événement. Alors ça, c'est à l'échelle, effectivement, franco-français, je dirais, mais aussi la manière dont, effectivement, les différents pays auxquels tu t'es intéressé, hein, les différents, justement, points de vue extérieurs, vont aussi avoir à digérer l'événement, hein, sous tout un tas de formes, politiquement, symboliquement, médiatiquement, il y a à certains moments, aux États-Unis, il y a des espèces de parcs d'attractions qui te reproduisent les événements de la commune, le grand incendie, etc. Donc, c'est assez fascinant, ça, donc t'as ce point-là, et tu le dis derrière, en fait, dès l'intro, tu dis, au fond, c'est une des choses aussi qui t'intéresse dans cet événement-là, c'est que c'est un moment de crise où tout est mouvant du point de vue des repères, du point de vue des normes sociales, des comportements, des manières de percevoir aussi les choses. T'as parlé du partage du sensible tout à l'heure. Bon, derrière ça, il y a cette idée-là, hein, effectivement, que tout ce... Voilà, les places, les ordres, les temps, les rythmes, tout cela se trouve modifié. Et ce qui te fascine au moins autant, c'est la manière dont les choses peuvent justement se réinstituer, se remettre en route d'une certaine manière. Donc c'est à ça qu'est consacrée ta troisième partie. Et puis, alors bon, peut-être si, voilà, au choix. T'as aussi la question du coup, alors là pour le coup, c'est un peu dans une perspective un peu à la Benjamin, de voir effectivement en quel sens finalement tout le travail que tu fais dans ce livre permet aussi de comprendre comment la commune peut être un événement qui fait partie non seulement de l'histoire franco-française, mais qui en réalité est aussi un événement qui a fait partie de l'histoire de tout un tas de pays, et donc elle prend des sens relativement différents. Et ce qui expliquerait du coup qu'il soit mobilisé et mobilisable encore aujourd'hui sous des formes qui parfois peuvent surprendre. Mmh. Voilà.
Oui, bah, je vais faire les deux en un comme ça.
Allez, allez.
Donc effectivement, le principe de la commune, hein, ce qui est son projet, parmi, il y en a plusieurs, mais c'est ce qu'on appelle la République démocratique et sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de république si on ne change pas les rapports socio-économiques. Et le relais, c'est l'association. Ça, c'est intéressant parce que cette question d'association, c'est celle qui a été critiquée à un moment donné par les marxistes. C'est celle qui revient aujourd'hui dans le débat. Donc un même élément peut être lu de façon différente. Alors qu'est-ce qui se passe juste après l'événement? Bon, on va passer sur le massacre qui est connu, ouais. Aussi sur la réception très négative, hein, qu'on trouve dans la presse, pour s'intéresser à ces échos. Moi, ce qui m'a surpris, c'est ça en réalité, c'est que on a les deux lectures très tôt. Marx fait une lecture très très rapide et assez hallucinante en réalité de qualité quand on imagine qu'il l'a fait à chaud dans la guerre civile en France. Bakounine fait une lecture anarchiste, donc on retrouve très quasiment tout de suite après l'événement. Ce fameux dualisme, hein, entre la lecture marxiste et la lecture anarchiste, qui est déconnecté du projet que les Parisiens portaient aussi au moment de la Commune. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en plus de ces deux grilles de lecture qui accompagnent une histoire du mouvement ouvrier qu'on connaît bien, la Commune est réappropriée dans plein d'endroits différents. Elle est réappropriée dans la Révolution cantonaliste espagnole, qu'on connaît plus mais qui est très importante, en 1873. On la trouve ensuite en Italie, on la trouve dans tout l'espace latino-américain à partir des années 1870. Aux États-Unis, des festivals réunissent près de 30 000 personnes au moment des anniversaires de la Commune. Et donc, il y a cette espèce d'écho. Alors, pour en revenir à notre question de départ, c'est pas une diffusion, c'est que chacun de ces mouvements s'approprie la Commune pour lui donner une surcharge de sens. Ouais. Donc, il ajoute à la Commune un sens local et la Commune vient apporter, en fait, une dimension un peu plus internationale à ces mouvements-là. Et de cette manière-là, la Commune est reprise. Donc, c'est ça, ça fait un bourgeonnement, en fait. Et chacun des usages est à la fois déconnecté du précédent, lui apporte quelque chose. Et après, il y a la révolution russe en 1917 qui ouvre un autre champ, une autre grille de lecture, mais qui va ouvrir aussi sur tout l'espace des décolonisations africaines. Puis, je fais vraiment très vite puisqu'il reste 3 minutes, mais à partir de la révolution chinoise dans les années 1960, il y a une autre réappropriation de la version soviétique la plus orthodoxe au fond, mais qui va donner lieu à des réappropriations lors d'une grande commune à Shanghai en 1967. Donc chaque fois, c'est jamais tout à fait la bonne commune, de toute façon c'est pas du tout l'enjeu, mais la commune fait sens, se dote de nouveaux sens et traverse le XXe siècle et le XXIe siècle. Alors ce qui est fascinant, c'est ce que je disais au début, moi quand j'ai commencé, l'événement était froid. on n'en parlait plus. Pour le 140e anniversaire, il n'y avait pas eu grand-chose. Je vous rappelle que Jean Tiberi pouvait se dire héritier de la Commune. Aujourd'hui, ça fait sourire parce que l'événement s'est réchauffé. Et donc, on a affaire quand même à un événement qui arrive à nous.
Qui repolarise.
Voilà, qui repolarise et qui est surchargé de toutes ses significations. Mmh. Donc, quand il y a eu le débat pour savoir si la Commune était un événement majeur ou mineur, parce qu'il dure que 72 jours, mais en fait, c'est pas 72 jours, c'est 72 jours, plus la somme de ses réappropriations dans le monde entier sur plus de 105 ans. Évidemment que c'est un événement majeur. En tout cas, symboliquement, c'est devenu une catégorie historique qui fait sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas tout à fait le même sens que celle qu'elle avait dans les années 50-70. Dans les années 50-70, la Commune, ça renvoyait soit la lutte des classes, soit la révolte urbaine. Aujourd'hui, ça renvoie plutôt aux formes d'appropriation du pouvoir par le bas, la souveraineté populaire, la démocratie, les territoires alternatifs. Donc en fait, la résonance de l'événement s'adapte en permanence aux formes de lutte sociale d'un moment. Et ce que ça reflète surtout, c'est la transformation de nos rapports de pouvoir contemporains. C'est-à-dire que là où dans les années 70 on reprochait à la Commune de ne pas être assez organisée et structurée, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on estime que ce qui est intéressant dans la Commune, c'est ces formes de pouvoir horizontal qui nous parlent beaucoup plus. Donc c'est l'événement qui nous apprend à nous voir nous-mêmes en fait. C'est ça que je trouvais assez fascinant en réalité.
Bah écoute, merci pour cette réponse flash.
Ouais, voilà, on est à la 30
cette réponse flash sur deux questions massives. Bon, comme quoi, voilà. Alors bon, on espère en tout cas avoir donné envie à nos éditeurs d'aller découvrir ce livre de Quentin de Luermoz. Hein, donc je rappelle le titre, Commune au pluriel 1870-1871, une traversée des mondes au 19e, c'est au Seuil. C'est un ouvrage qui est passionnant, enfin voilà, qui est appelé à faire date pour le coup, je pense, dans l'historiographie de la Commune. On te remercie Quentin d'être venu le présenter aujourd'hui, et on vous laisse donc pour ce soir avec un nouveau morceau Oulalou, qui en fait est un morceau sur les révoltes kabyles de 1871 une nouvelle fois, et qui permet de faire un petit clin d'œil à toutes ces questions que nous n'avons fait qu'effleurer ce soir.
سند الرومان سيعه وديون انسان اتشرني كوفان بنون ذا سوان اتشرني كوفان بنون ذا سوان اكرادي لي غنين وحق ما دغسن تيم قد دامقين يوغال ذي دغاقن اما السدن السين سيخفن يوغرثن فراوت للين اوي دقيك رهن ما زالني لين اشرب وسند وعرفان سال عسكر الصفوف ما بديني غد كويم ميم وميل سيوف ما بديني غد كويم ميم وميل سيوف سامى دين سلمان اسي اسم القران بغانا غشن ديك خدم الامان سامى دين سلمان اسي اسم القران بغانا غفكن اه يا الدين قسم براوت للي ناوي دقيك رهن ما زال نيلي اشرب وانا الوان ويدومر نهوي لبابر الطقفان يوسادو طرفين يا سبد دن خوجا يوسادو طرفين يا سبد دن خوجا احمدوا القاضين في الاسيب كوجا احمدوا القاضين في الاسيب كوجا عباسي هو بيوكي لغرامة نستنيات نجود جود نجين كرا سي بابا عروج سي وابا قلاوة فراوت للي ناوي دقيك رهن ما زال نيلي اشرب وين ننوان ويدومر نهوي تحلو ضد قفثان وسندي رميان ننوي قطف الحير وسندي رميان ننوي قطف الحير يا الشيخ حدان
بشير يا فاطمة سمر يا عبان رمضان مين سوس قد يقول دايني بيمينة أيزنا نحت وغيول اسمي سبن بلا مين سوس قد يقول دايني بيمينة يا الرايا وغيول ذا عربنا مرة كرات جدي تسليلو سليلو ما زالت قبيلي تصرب بارت حيوم كرات جدي تسليلو سليلو ما زالت قبيلي ثورت الصين في النوم كرات جدي تسليلو سليلو ويبغنا في التيري في ذنا غادي الدوم كرات جدي تسليلو